Donc, bonjour à tous. Hein. Bonjour à tout le monde. Prenons nos Bibles dans l'évangile de Luc, de Marc, pardon. Dans l'évangile de Marc. Et pour introduire donc le message d'aujourd'hui, juste un petit rappel. Vous savez, quand on lit les évangiles, on découvre que plusieurs choses chez Jésus étonnait, impressionnait les gens. Mais aussi dans l'autre sens, vous saviez que Jésus était aussi étonné de voir certaines choses ou d'entendre certaines choses chez ses contemporains. Et donc on trouve cela dans les évangiles, ce qui impressionnait les gens chez Jésus, ses miracles, son attitude, ses fréquentations, son enseignement, ses paroles, et même parfois son silence interloquait les gens, ça impressionnait les gens. Notamment Pilate, qui a été impressionné quand Jésus ne lui répondait pas à ses questions. Et bien sûr aussi, sa résurrection a impressionné beaucoup de gens. Mais comme je disais, de l'autre côté aussi, Jésus était impressionné de ce qu'il a vu chez les gens. C'était pas à cause de ce que les gens pouvaient être riches, être dans des palaces, ou appartenir à une classe sociale avec des richesses, du pouvoir, ou être membre du conseil du Sanhédrin, du conseil d'anciens ou des sacrificateurs. Rien de tout cela n'impressionnait Jésus. Ce qui impressionnait Jésus, si vous avez une idée, je vais vous donner un indice. Dans la parabole du juge inique, à la fin, Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera là, quand il reviendra sur la terre? Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça, c'est quelque chose qui était précieux aux yeux de Jésus et qu'il valorisait et qu'il encourageait. C'est quelque chose qui impressionnait Jésus. Il est dit à deux reprises dans les évangiles, à deux occasions où deux personnes, par leur foi, ont impressionné Jésus. Il est dit que Jésus était dans l'admiration. Par exemple, quand le centurion romain est venu voir Jésus pour que Jésus guérisse son serviteur, il est dit que Jésus, après avoir entendu le centurion romain, il lui a dit ceci, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et en Matthieu 15, 8, la femme cananéenne qui est venue demander la guérison de sa fille tourmentée par un démon à Jésus, Jésus, après l'avoir entendu, a dit, « Femme, ta foi est grande. » Ces deux choses-là impressionnaient, la foi de ces personnes impressionnait Jésus. Mais il y a une autre chose aussi qui impressionnait Jésus. C'était le contraire de la foi, l'incrédulité. Il est dit en Marc 6 que Jésus n'a pas pu faire de miracle dans sa patrie à cause de l'incrédulité de ses frères. Et cela l'avait beaucoup étonné, l'incrédulité. Et la foi, c'est ce que Jésus est venu susciter en nous, est venu susciter au monde. Cette foi en lui, cette foi en Dieu. Et à chaque fois que des personnes ont manifesté cette foi, il n'a pas laissé passer l'occasion de saluer cela, d'encourager cela, de conforter la personne qui avait cette foi. Pensons par exemple à cette femme qui était malade depuis 12 ans, qui s'est dit que si elle touchait juste le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle est passée par-dessus, elle s'est frayé un chemin dans la foule, elle a touché Jésus et elle a été guérie. Jésus n'a pas laissé cela passer comme ça. Il s'est retourné, il a cherché le contact, il a parlé avec cette dame en disant, « Ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Et à chaque fois, vous allez remarquer que Jésus, quand on lui demandait une guérison ou quoi que ce soit, il répondait « Qu'il te soit fait selon ta foi » ou « Est-ce que tu crois que je peux te guérir ?» C'est sur ce sujet que je voudrais nous entretenir ce matin, la foi et l'incrédulité, au travers du passage que nous allons lire. Parce que c'est notre appel de marcher dans la foi, continuellement et sans interruption. La foi que Jésus recherche à nous, elle ne s'arrête pas à cette foi où on dit « Mes péchés me sont pardonnés, je suis en route pour le paradis ». Non, c'est une foi vivante, de chaque jour, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous traversons. Pourquoi ? Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, doit être fait pour et dans le Seigneur. Mais semble-t-il, je parle surtout pour moi, que la vie chrétienne ressemble parfois à cette marche sur cette frontière qu'il y a entre la foi et l'incrédulité. Une frontière très mince, au point où parfois On a les deux pieds soit d'un côté, soit de l'autre. On ne s'en rend pas toujours compte où on marche un pied d'un côté, un pied de l'autre. Un pied dans la foi, un pied dans l'incrédulité. Et ça ne doit pas en être ainsi. Donc, je vais vous proposer une lecture assez longue dans l'évangile de Marc au chapitre 6. On va lire trois sections et on va voir au travers de ces sections le parcours des apôtres, des disciples de Jésus, de comment ils sont passés d'une pleine foi à l'incrédulité. On va lire Marc 6. Excusez-moi si la lecture est un peu rapide parce que le texte est un tout petit peu long. Marc 6, à partir du verset 6, la fin du verset 6, on va lire de là jusqu'au verset 13. Ensuite, on lira du verset 30 au verset 52. Alors, je lis. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des personnes qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. » On va laisser le passage de la mort de Jean-Baptiste. On va prendre à partir du verset 30 la multiplication des pains, le miracle des pains. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors, il demanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5 000 hommes. Et la troisième section, donc, verset 45, le miracle où Jésus marche sur les eaux. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis, il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. On s'arrête là. Dans la première section où le Seigneur envoie les apôtres deux par deux, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, on voit une réponse des apôtres, une réponse de foi. Le Seigneur leur donne des instructions de ne pas prendre de vêtements, de ne pas se soucier d'où ils vont dormir, ce qu'ils vont manger. Il leur donne cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle et de guérir les malades. Et sans hésitation, les disciples sont allés et ils ont accompli tout ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Et dans la deuxième section, quand ils vont revenir auprès de Jésus, ils vont raconter tout ce qu'ils ont fait. Un peu plus près de la crucifixion, Jésus va rappeler cet épisode à ses disciples. Que lorsque je vous ai envoyé deux par deux, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils vont répondre non, on n'a manqué de rien. En effet, c'était une réponse de foi. De se dire, et Jésus les avait prévenus d'ailleurs, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais ça ne leur avait pas fait peur. Ils avaient, en toute confiance, écouté ce que le Seigneur leur demandait de faire. Ils ont été sans prendre les provisions, sans se soucier d'où ils allaient dormir. Et pendant cette mission, tout s'est très bien passé. Ils ont guéri des gens, ils ont annoncé l'évangile, ils ont été accueillis chez des gens, ils ont été hébergés. En quelque sorte, Dieu avait pourvu à tous leurs besoins. C'était vraiment un acte de foi de leur part de partir sans rien comme ça, de partir sur la parole du Seigneur. Et le Seigneur avait pourvu à tout ce qu'il fallait. Et ça, ils en étaient conscients. Ensuite, donc, ils reviennent auprès de Jésus, sûrement fatigués de ce voyage, de cette mission. Et Jésus leur propose d'aller à l'écart pour se reposer un peu. Sauf que quand ils prennent le large et ils vont de l'autre côté, ils arrivent, il y a la foule qui les attend déjà. Et Jésus, en quelque sorte, fait une croix sur le repos qu'il était allé rechercher avec ses disciples. Il se met à enseigner la foule. On voit vraiment ce cœur d'enseignant, ce cœur de bon berger qui donne sa vie pour les autres, dont il parlera dans l'évangile de Jean. Et là, il y a cette scène où les disciples demandent à Jésus de renvoyer la foule, mais sous prétexte qu'il faut qu'ils aillent manger. Mais Jésus leur répond, donnez-leur vous-même à manger. Et dans l'évangile de Matthieu, Matthieu rajoute même cette phrase de Jésus, il n'y a pas besoin qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-même à manger. Et bien sûr, face à cela, pour les disciples, ils ont eu un raisonnement humain, direct sur le champ. C'est humainement impossible de nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, en l'espace de moins d'un après-midi. Et pas de n'importe quelle manière, sous la précipitation et le désordre. On voit que Jésus va demander de faire les choses dans l'ordre, dans le calme, de manière harmonieuse. Mais humainement, c'est impossible. Ça, c'est le raisonnement des disciples. Et face à cela, les disciples ont eu deux propositions, deux méthodes pour nourrir toute cette foule. La première, c'était la méthode du chacun pour soi. Tu leur demandes de rentrer, chacun se débrouille, va chercher à manger. La deuxième méthode, c'était la méthode des dons de charité, des ONG qui collectent de l'argent pour faire des dons, pour acheter à manger. Mais encore, c'était impossible. Bon, Jésus n'est pas resté longtemps là-dessus. Directement, il a compris que... En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que entre l'acte de foi qu'ils ont posé en acceptant la mission de Jésus et celle-là, on se rend compte qu'ils avaient déjà un peu oublié Dieu à ce moment-là. Ils avaient déjà un peu oublié Dieu. Mais Jésus a repris les choses en main. Jésus a demandé ce qu'ils avaient et a fait asseoir tout le monde, il a rendu grâce, il a prié, il a rompu le pain, il a distribué à tout le monde. Et dans la troisième section, les apôtres sont tout seuls maintenant. Ils doivent rejoindre l'autre rive. Et bien sûr, ils ont obéi à la parole du Seigneur. Il est dit, le Seigneur les a obligés à traverser la mer et de se rendre de l'autre côté. Ils ont obéi. On pourrait se dire, quand on obéit au Seigneur, tout va bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas toujours vrai. Dans ce cas, ils ont eu les vents contraires. Ils se sont battus à ramer pour traverser. Parfois, quand on obéit au Seigneur, eh ben, on se trouve en train de marcher dans ce monde avec des vents contraires aussi à nous. Et ils voulaient traverser la mer. Et ils étaient vraiment dans une situation où tout reposait sur eux. Ils s'appuyaient sur leur force, sur leur expérience de la mer pour traverser. Mais sauf que quand Jésus constate cela et que Jésus veut venir à leur secours, l'apparition de Jésus pour eux conduit à une crise de panique, de peur. Et la peur, généralement, c'est un révélateur d'un manque de foi. Ça révèle que notre foi est un peu émoussée, même quand c'est le Seigneur qui par lui-même intervient. Et c'est donc le verset 52 qui a attiré beaucoup mon attention quand j'ai lu ce passage. Il est dit au verset 22 que leur réaction, leur peur profonde, leur étonnement étaient liés au fait qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Alors il fallait aller creuser. Qu'est-ce qui était dans le miracle des pains à comprendre? Ils n'ont pas compris le miracle des pains. Il est aussi dit toujours parce que leur cœur était endurci. Il fallait alors comprendre à quel moment leur cœur était endurci. À quel moment ils n'ont pas compris? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris dans le miracle des pains? Et tout cela se passe en l'espace d'une journée. Et ce verset veut en d'autres mots dire que le miracle des pains n'avait pas contribué à augmenter leur foi en Jésus. Parce que leur cœur était endurci, c'est-à-dire incrédule. Et nous voyons comment les apôtres ont perdu la foi à ce moment-là, malgré tout ce qu'ils avaient vu, entendu du Seigneur. Et ça, en l'espace d'une journée. Il ne faut donc pas plus d'un jour pour que nos cœurs s'endurcissent et pour que nos cœurs sombrent dans l'incrédulité. C'est ce que nous dit Hébreux 3, si vous voulez trouver Hébreux 3, les versets 12 à 13, qui nous dit comment en l'espace d'un jour, on peut être complètement dérouté, mais donne aussi la solution à comment éviter cela. Hébreux 3, versets 12 et 13. Je vais lire à partir de... Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et donc face à cela, à cette facilité que notre cœur s'endurcisse, perde la foi, nous devons nous exhorter, nous encourager mutuellement. Chaque jour, il est dit, c'est chaque jour, en toute chose, pour être constamment renouvelé dans notre foi. Maintenant, je vous propose qu'on essaye rapidement de comprendre comment ils ont pu passer de cette pleine foi à cette incrédulité. Mais avant, je veux qu'on se représente cette pleine foi comme des perles précieuses renfermées dans un coffre-fort. Et ça, les disciples, ils l'avaient quand le Seigneur les a envoyés deux par deux. Ils avaient le coffre-fort plein de ces perles précieuses. Et lorsque Jésus leur a demandé de nourrir la foule, de donner à manger à la foule, et qu'ils ont répondu « on ne peut pas, c'est impossible », je me pose la question de savoir s'ils ont considéré la chose impossible. Est-ce qu'ils ont considéré la chose au-dessus de leur force? Comme si ce que Dieu, Jésus leur avait demandé avant, d'aller annoncer l'évangile, de guérir les malades, de chasser les démons, paraissait pour eux quelque chose de possible quand ils ont reçu cette mission. Quand on leur a dit, allez faire cette mission deux par deux, ils n'ont pas hésité. La mission était réussie. Ils sont venus, ils ont fait leur rapport. Je me demande bien pourquoi, quand Jésus leur donne cette mission, leur réaction, ils n'ont pas peur. Jésus leur dit, vous êtes des brebis que j'envoie au milieu des loups. Mais ils sont partis, peut-être tout contents, recevant cette autorité du Seigneur pour aller annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. Je me demande, c'est pas parce que parfois on est friand de ces expériences qui sont excitantes et qui peut-être nous attirent un peu les honneurs. Comme par exemple, sortir là, prêcher, et voir des conversions. Ce sont des choses qu'on aimerait que le Seigneur nous dise. Parce que quelque part, ça nous attire un peu des honneurs. Et eux aussi, en guérissant, en faisant ça, quelque part, ils devaient être exaltés et impressionner les gens. Et ça, peut-être, ils avaient aussi... Voilà, ils étaient friands de cela. Le Seigneur leur a dit, faites-le, sans hésiter, pleine foi, plein gaz, ils sont allés. Et on aimerait aussi, nous, avoir ce genre de mission. Mais quel privilège ça devait être pour eux de recevoir une telle mission, d'aller guérir des gens, d'aller annoncer la bonne nouvelle et de chasser les démons. Je pense que aujourd'hui, dans notre 21e siècle, il y a plus d'un télévangéliste qui aimerait recevoir ce genre de dons, ce genre de mission. Et dans le livre des apôtres, on en connaît un, Simon le magicien, qui, lorsqu'il a vu Pierre imposer les mains aux Samaritains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il a dit « Je vais vous l'acheter ce don ». Lui aussi, il voulait cette manifestation, ces expériences-là. C'est vraiment excitant, c'est ce qu'on aimerait avoir. Mais si le Seigneur nous dit à nous, je veux plutôt t'aider à vaincre ton péché, à vaincre la haine qui est en toi, la colère, l'animosité, le refus de pardonner les autres. Si je veux t'aider à faire cela, est-ce que tu es prêt? On lui répond, non, là, Seigneur, tu sais, je suis comme ça, ça peut pas, c'est impossible. Mais si le Seigneur nous propose... de la prospérité, une promotion au travail, là on dit amen. Là oui, là on peut le faire. En comparant la parole avec la parole, vous savez, le Seigneur a fait une deuxième commission à ses disciples. Il les a envoyés une seconde fois. D'aller annoncer l'évangile et de faire ces miracles-là. C'est dans Luc 10. En lisant cette fois-là, quand les disciples reviennent, ils ne disent plus, Seigneur, voilà ce que nous avons fait. Ils disent, Seigneur, voilà ce que nous avons fait en ton nom. Je pense qu'il y a une différence entre Seigneur, voilà ce que j'ai fait, et voilà ce que j'ai fait en ton nom. Et dans la première mission qu'ils ont fait, ils sont venus, Seigneur, voilà ce qu'on a fait. Voilà ce qu'on a enseigné. Je pense que là, c'était la première ouverture dans leur coffre-fort où, qui a occasionné cette perte de foi, de ces perles précieuses dans leur cœur, dans leur coffre-fort, qui était plein au début. Ils avaient peut-être un excès de confiance en eux-mêmes, de croire quelque part que ce qu'ils avaient accompli, c'était par leur force. Et vous savez aussi, il y a eu une seconde multiplication des pains. Et à la seconde multiplication des pains, aucun des disciples n'a osé dire au Seigneur, renvoie la foule. La foule est restée 3 jours derrière Jésus sans manger. Et c'est Jésus qui a pris l'initiative de dire, il faut qu'on lui donne à manger. Alors qu'ici, c'était les disciples qui étaient venus, bon Seigneur, il faut qu'on ait notre temps de repos. Cette foule, elle est un peu trop là, elle est un peu trop intrusive, il faut que tu les renvoies. Et là aussi, c'était une faille dans leur coffre pour que le cœur s'endurcisse et perdre la foi qu'ils avaient. Ils voulaient leur temps privilégié de repos avec le Seigneur, mais la foule était toujours là. Et visiblement, dans la barque, ils avaient tout oublié du miracle des pains. Mais à la seconde multiplication des pains, ils prendront le temps quand même... De réfléchir à ce qui s'est passé, même s'ils en tireront une une explication ou une interprétation erronée, mais ils s'en souviendront au moins de cela. Et aussi un truc qu'on peut remarquer, dans les quatre évangiles qui relatent cette première multiplication des pains, aucun des évangélistes ne fait allusion au fait que ce miracle ait touché le cœur des apôtres. Personne d'eux n'a été touché, personne d'eux n'a été émerveillé par cela. Mais la foule l'a été, on lit cela en Jean. Comment il est dit que la foule était émerveillée par ce miracle et ils voulaient même faire de Jésus leur roi. Mais Jésus s'est enfui. Et donc dans la barque, pendant la traversée, les disciples, comme je disais, se battent contre le vent. On ne peut pas leur reprocher leur détermination, surtout après une journée physiquement éprouvante qu'ils ont eue. Mais, personne d'eux ne se dit, si Jésus a pourvu aux besoins de 5000 hommes, femmes et enfants, il pourrait aussi venir à notre secours, si on appelle à lui. Ils avaient aussi les 12 paniers de pain et de poisson qui restaient, mais ça ne leur rappelait plus rien. Mais malgré leur incrédulité à ce moment-là, Jésus ne les a pas abandonnés. Et la leçon pour nous, c'est que Jésus aussi ne nous abandonnera jamais si nous lui obéissons. Jésus ne nous délivrera pas d'une situation pour nous abandonner dans une autre. Dieu est bon, Dieu est souverain, et c'est pour ça qu'il peut aussi intervenir, même là où nous on est incrédules, il peut intervenir de manière miraculeuse. Et je voudrais nous poser des questions ce matin. Est-ce que nous ne ressemblons pas un peu à ces disciples-là quelque part? Est-ce que nous marchons réellement par la foi tout le temps, à 100%? Si nous répondons oui, et si nous répondons que nous ne ressemblons pas à ses disciples, posons-nous ces autres questions. De savoir pourquoi est-ce que il nous arrive encore de nous inquiéter à cause des circonstances alors que le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Pourquoi nous jugeons les autres, nous jugeons entre nous? Pourquoi nous cherchons vengeance lorsqu'on nous fait ou on nous dit du mal? Pourquoi on cherche des récompenses terrestres, l'honneur devant les hommes? Alors que le Seigneur nous a dit explicitement qu'il se chargerait de notre récompense, que ça lui la vengeance. Et pourquoi, de même, nous manquons parfois de motivation à lire la parole de Dieu? Pourquoi nous ne prenons pas, des fois, au sérieux la parole? Pourquoi trimballons-nous des fardeaux et refusons de les confier au Seigneur pour être disponibles pour lui? Pourquoi est-ce qu'on est si parfois souvent découragé? Je pense que c'est parce qu'il nous arrive de manquer la foi. Et même si notre foi à nos péchés pardonnés, à notre salut en Jésus demeure ferme, et je l'espère pour chacun de nous, nous avons parfois des micro-coupures dans notre foi, il faut qu'on l'admette. On n'en est pas toujours conscient de ces micro-coupures, comme celles qu'on a chez soi quand l'électricité dérange un peu. Je viens d'un endroit où les coupures d'électricité sont très fréquentes. Chaque année, tous les mois, il y a des coupures qui durent 2-3 jours. Bon, ici en France, il y en a un peu moins. Si ça dure 2-3 jours, c'est peut-être à cause d'un orage, un arbre qui est tombé sur un câble électrique et qui l'a affectionné. Mais je pense qu'aussi, même les lumières au-dessus de nos têtes, là, elles s'éteignent et se rallument. C'est juste que la fréquence est trop élevée, on ne le perçoit pas. On a l'impression que ça brille en continu. Et nous aussi, notre foi connaît des micro-coupures. Mais le but, c'est que ces micro-coupures aient de moins en moins lieu. Je pense aussi que c'est parfois ces micro-coupures qui sont à l'origine de nos relâchements, dans notre marche pour ressembler au Seigneur. C'est ce qui amène très souvent le découragement. Et je dis cela donc pour nous éveiller, dans le but que ces micro-coupures aient de moins en moins lieu et que notre foi paraisse être en continu tout le temps en notre Seigneur. Et ce miracle aussi de Jésus marchant sur l'eau, c'est aussi un miracle pour rebooster, pour ranimer leur foi dans le Seigneur. Matthieu rapporte que Pierre, quand il a vu Jésus marchant sur l'eau, il a eu tellement de foi qu'il a voulu aussi aller marcher sur l'eau. Et il a marché. Sauf qu'à un moment, il a douté. Micro coupure. Il s'est remis à couler. Mais Jésus lui a tendu immédiatement la main pour le sortir de l'eau, avant qu'il ne coule complètement. Et Matthieu reporte également qu'après qu'ils aient vu tout ça, ils se sont prosternés devant lui dans la barque et ont dit « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Ce miracle avait aussi pour but de ranimer leur foi. Et parfois, on a aussi besoin de repasser par là, avec le Seigneur, dans les épreuves, dans les circonstances. Comment il nous répond, comment il réagit, ce qu'il permet dans nos vies, comment il nous en délivre. Ça nous ranime notre foi. Et nous devons veiller chaque jour, nous exhorter mutuellement pour ne pas la perdre. Et si on la perd, le Seigneur est fidèle, il est là pour nous relever. Dans ces trois occasions, Jésus a donné des instructions à ses disciples. Et la réponse à ce que Jésus nous dit, ce qu'il attend de nous, c'est une réponse de foi. L'attitude des apôtres à ces occasions était différente des unes des autres. Premièrement, ils ont accepté leur mission, plein de foi, ils sont allés et tout s'est bien passé. Hélas, leur cœur a commencé à chavirer, à s'endurcir, lorsqu'ils ont peut-être dû penser que ce qu'ils avaient réalisé venait d'eux. Alors, pour les éprouver, le Seigneur les a dit, donnez à manger à cette foule. Et on voit que leur réaction était complètement humaine, complètement déconnectée de celui qui leur parlait, Jésus, déconnectée de Dieu. Ce qu'il leur fallait, c'était de se tourner vers Dieu, parce que c'était humainement impossible de le faire. Et là, c'est à se dire, s'ils avaient les yeux bandés quand il est dit qu'ils n'ont pas compris le miracle des pains, c'est comme s'ils ne l'avaient pas vu. Non, les yeux étaient ouverts, ils ont fait le service. Mais ils avaient le cœur bandé, ils avaient le cœur endurci. Et donc, dans la barque, ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils appuyaient encore là sur leur propre force pour traverser, sur l'ordre du Seigneur de traverser la mer. Personne d'eux ne s'est dit, comme le Seigneur a pourvu aux besoins de ces gens, il peut aussi pourvoir notre besoin de sécurité. En plus, ils avaient les 12 paniers avec eux dans la barque. Ils étaient vraiment aveuglés. Oublier tout ce qui était passé. Mais le Seigneur, on peut lui rendre grâce parce qu'il n'est jamais très loin. Le Seigneur aurait pu traverser la mer en passant à 10 kilomètres de l'autre côté. Mais il est passé comme il peut le voir. Comme il peut le voir marcher sur la mer. Il est passé pas très loin d'eux et ils l'ont vu. Mais leur réaction, c'était une peur panique. Vous voyez donc comment on peut être sujet à très vite et facilement perdre notre foi. Si nous oublions très vite ce que le Seigneur nous enseigne et ce qu'il réalise dans nos vies. C'est pas une question d'une semaine, d'un mois ou d'un an. Non, dans la même journée, on peut passer de là à là. Il ne doit pas en être ainsi pour nous, frères et sœurs. Notre foi doit plutôt augmenter avec la révélation que nous recevons du Seigneur et pour tout ce qu'il fait pour nous. Et si nous avons le malheur de nous attribuer quelques mérites de ce que le Seigneur accomplit au travers de nous, eh bien, nous allons prendre la même trajectoire que les apôtres dans cette situation, dans cette journée. Nous devrions alors prendre le temps de méditer sur la parole de Dieu, sur les circonstances qu'il permet que nous traversions, et même sur nos moments de faiblesse, pour fortifier notre foi. Et pour finir, notre foi au Seigneur Jésus, c'est quelque chose de précieux. Car de la profondeur de notre foi dépend notre qualité de vie chrétienne. Et pour conserver continuellement, pour la conserver continuellement notre foi au Seigneur, il veut ôter nos cœurs de pierre, nos cœurs endurcis, nos cœurs arides. Il veut nous donner un cœur de chair. Il veut aussi mettre ses lois dans notre esprit. Il veut écrire ses lois dans nos cœurs. En d'autres termes, il veut créer en nous le désir de lui obéir, d'obéir à ses lois. Il veut aussi nous donner la capacité, l'habilité de réellement pratiquer, obéir ses lois. Si les choses que le Seigneur nous enseigne, ce qu'il nous montre ne rentrent pas dans nos cœurs vont finir par s'endurcir. S'endurcit comme ceux du peuple juif dans le désert, dont peut-être que le Seigneur a trouvé les cœurs plus durs que le roc, qu'il a choisi d'écrire ses lois sur des tables de pierre et non dans leur cœur. Frères et sœurs, qu'il ne soit pas ainsi pour nous, que le Seigneur veut écrire ses lois dans nos cœurs et trouve des cœurs plus durs que la pierre et qu'il soit obligé de les écrire non pas dans nos cœurs, mais sur des tables de pierre. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous avons écouté cette parole et vu cet exemple passer avec tes disciples, tes apôtres dans une journée, de comment ils ont un temps eu cette pleine foi, Seigneur, cette pleine confiance en toi, mais aussi un temps complètement tout perdu. Seigneur, tu nous appelles à marcher non par la vue, mais par la foi, et nous voulons, Seigneur, renouveler notre attachement à toi. Te demander pardon là où nous manquons de confiance, nous manquons de foi envers toi. Merci parce que tu es fidèle et que tu réponds au-delà de ce que nous te demandons. Nous avons besoin de toi, Seigneur, chaque jour. Nous avons besoin que tu fortifies notre foi, que tu la fasses grandir et que nous soyons en mesure, Seigneur, de te voir, de te contempler, d'accepter ta révélation et la mission et ce que tu nous demandes de faire. Nous ne voulons pas être incrédules, Seigneur, devant ta parole, devant tes promesses, mais nous voulons ajouter foi à tout ce que tu dis, parce que ta parole est la vérité. Seigneur, garde nos cœurs, je te prie de s'endurcir, dans l'incrédulité, dans le péché, dans l'insensibilité à ta présence, à ce que tu es, à ce que tu as fait, Seigneur, il y a 2000 ans en arrière à la croix, pour chacun de nous. Que ce souvenir nous soit toujours frais, Seigneur, chaque jour, et de ce que, depuis que nous sommes venus cette terre, tu n'as cessé de penser à nous, et il y a un jour où tu nous as attirés, tu nous as convaincus, et tu nous as attirés à toi. Que nous n'oublions pas ces moments-là et les jours qui ont passé, que nous discernions, Seigneur, ta main qui est intervenue miraculeusement, soit dans nos vies, soit dans celles de nos frères et sœurs ou de nos proches. Oui, Seigneur, on veut discerner tous ces moments-là Mais on va aussi te confier nos temps faibles, nos temps de faiblesse, là où nous avons perdu appui, nous avons perdu confiance et nous avons douté. On veut te confier, Seigneur, ces moments et les utiliser pour être plus fort à l'avenir. Merci pour ce don de la foi. Merci pour Jésus qui nous l'a fait grandir. Merci parce qu'il est avec nous et on veut vraiment nous attendre à lui encore ce matin. Et dans les jours qui vont venir, les semaines, les années, on veut s'attendre à toi, Père. On veut marcher par la foi, on veut te voir, on veut t'entendre, on veut t'écouter, on veut t'obéir par la foi. Grâce te soit rendue, Père notre Dieu, en Jésus-Christ. Amen. Amen.